France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Pour le quatrième temps d'une série d'émissions consacrée au chemin contradictoire entre poésie et musique, Christian Rosset s'entretient avec plusieurs figures du monde des lettres. Michel Grangot, membre de l'Oulipo, Yves Dimano et Marie-Étienne, qui fut longtemps en charge des lectures de poésie au Théâtre de Chaillot à Paris. Trois voies pour trouver enfin des chemins convergents entre poésie et musique. Pour éviter, selon les mots d'Yves Dimano, que l'écriture poétique ne soit que le prétexte d'une composition musicale. Et peut-être retrouver les traces d'une unité perdue entre poésie et musique qui rappellerait le lointain souvenir des troubadours. C'était le 3 octobre 1996 dans Euphonia.
Euphonia.
Une émission du programme musical de France Culture, cette semaine Poésie, musique, chemin contradictoire, par Christian Rosset, avec aujourd'hui Yves Dimano, Michel Grangot et Marie-Étienne, écrivain, poète.
Only when flight shall soar not for its own.
Morton Feldman, Only, texte de Rilke, Joan La Barbera, soprano.
Lonely silence and be no more. Merely the lightly profiling proudly successful tour, playmate of winds. Beguiling time there, careless and cool. Only when some pure wither outweighs boyish insistence on the achieved machine with whom has journeyed thither, being that fading distance all that his flight has been.
Yves Dimano, vous êtes poète et directeur de collection chez Flammarion, d'une collection d'ailleurs qui s'appelle Poésie. Donc c'est un mot, j'imagine, que vous utilisez souvent. Alors les gens ne savent pas ce que c'est que la poésie et qu'est-ce que c'est qu'un poète. On a une idée un peu floue. Est-ce que vous pouvez, puisque vous êtes certainement la personne qui lit le plus de manuscrits, qui rencontre le plus de poètes de par votre fonction, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est ?
La poésie, qu'est-ce que c'est ? C'est un genre. Moi, j'ai tendance à répondre le plus simplement possible à ce niveau-là. S'il faut une définition abrupte et carrée, je dirais, la poésie, c'est pour moi, en tout cas, ce qui est globalement écrit en vers, c'est-à-dire qui n'est pas écrit en prose. C'est une réponse à la Monsieur Jourdain. Mais tout simplement parce que c'est, si on doit rentrer dans des considérations un peu plus élaborées et développées, ça nous entraînerait assez loin, puis on se perdrait très vite dans des détails. Ceci dit, il m'arrive aussi de publier dans cette collection poésie des livres qui sont en prose, ou massivement en prose, même s'ils comportent des séquences en vers. Donc c'est pas aussi simple que ça. Autrefois, je dis autrefois, à l'époque où les choses étaient relativement claires, où il y avait une prosodie, un maître, enfin des maîtres, des rimes, des choses comme ça, les gens savaient très bien ce que c'était que la poésie. Bon, ils savaient que c'était des choses écrites dans une forme donnée, avec un certain type de contrainte, je dirais. Il est indéniable que depuis un bon siècle, les choses se sont un peu compliquées, enfin, ou dissoutes. Et c'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles les gens sont parfois un peu déroutés. Parce que justement, il nous manque, on manque, si on veut, d'une relative définition sur laquelle tout le monde s'entende. Ce qui amène tout un chacun, écrivant en vers, ou travaillant la langue avec un effort vers le rythme et la composition, autre que la prose. Ce qui amène donc tout un chacun à définir un peu ses propres règles, ses propres lois, et bien sûr avec le risque, parfois réel, parfois inévitable, que personne ne les voit très bien, ou du moins ne les soupçonne dans toute leur richesse, etc. Ceci dit, il me semble que au moins chez la majorité des gens qui travaillent un peu sérieusement, je veux dire avec une œuvre conséquente, obstinée, durable, je crois que les choses finissent par redevenir assez claires, parce que en dépit de la disparition visible et officielle ou quasiment de la métrique ancienne. D'une part, cette métrique, en fait, n'a pas totalement disparu, c'est-à-dire, outre que des gens continuent à pratiquer l'écriture en vers rimé compté traditionnel, des fois avec quelques réussites, pas souvent, mais enfin, ça arrive, ou essayent d'étendre les possibilités de l'ancien système de manière un petit peu contournée, biscornue et tout ça. Bon, indépendamment même de ça, la présence de l'ancienne métrique continue, me semble-t-il, à imprégner une partie de l'écriture poétique contemporaine.
Pensez justement que les chanteurs, auteurs-compositeurs, qui continuent à utiliser justement des choses de métrique traditionnelle, et pas forcément en France, mais prenons quelqu'un, je crois que vous aimez bien, qui vous intéresse comme Bob Dylan, sont du domaine de la poésie, ou c'est autre chose?
La chanson, en l'occurrence moderne, contemporaine, bien évidemment, est dans un héritage qui est beaucoup plus celui de la musique chantée. Enfin, dans notre propre tradition, on pense évidemment aux troubadours, dont les compositions n'étaient pas des pièces faites pour être lues, mais faites pour être chantées avec accompagnement musical. Alors, il est effectivement assez intéressant de voir que, je dirais, la forme la plus populaire, enfin, la plus diffusée du poème du XXe siècle, c'est effectivement la chanson. Parce que bon, il y a beaucoup de déchets, bien évidemment, dans ce genre comme dans les autres. Mais il y a quand même un certain nombre de gens, bon, et chez les anglo-saxons, vous citiez Dylan, c'est clair et net, qui ont quand même une écriture, je dirais, tout en faisant des textes qui ne passeraient absolument pas sous une forme uniquement imprimés. C'est-à-dire que si on prenait les textes, ce qu'on fait des fois, puisqu'on publie quand même des fois les textes des chansons, c'est en général très catastrophique. Parce que justement, ces textes n'existent pas sur le papier. Enfin, ils ne sont pas faits d'ailleurs pour l'impression. Alors bon, il y a le problème du fait que ça passe par une musique. Enfin, il y a une composition musicale en parallèle à l'écriture du texte de lui-même. Et puis, il y a la dimension strictement vocale chez les chanteurs qui est quand même, à mon avis, pour beaucoup. C'est-à-dire la présence de la voix de quelqu'un. Bon, dans le cas de Dylan, c'est clair et net, surtout quand il était plus jeune qu'aujourd'hui, où il lui restait un peu plus de voix. Parce que maintenant, ça s'essouffle un peu. Il y avait une présence où quelqu'un comme Lennon, par exemple, qui avait une voix, enfin au niveau du chant, qui était une dimension aussi de leur chanson. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, sing the song of love, Julia, Julia. Seashell eyes, windy smile calls me, so I sing the song of love, Julia. Sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me. So
est-ce qu'il n'y a pas un lien important en général entre l'idée de poésie et l'idée de chant, même si les poètes ne sont pas des chanteurs et ont une écoute intérieure de leur poésie?
Moi, j'emploierais pas le mot chant. Je dirais qu'il y a une présence de rythme. Enfin, l'idée du rythme, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il peut y avoir aussi des textes en prose qui relèvent au fond à notre époque de la poésie, parce qu'il y a un travail à ce moment-là sur la prose qui est rythmé. Donc c'est pas tellement la présence d'un chant pour moi dans le sens un peu vocalique du terme, d'une dimension un peu physique, je dirais, d'une voix privée ou quelque chose comme ça. C'est plutôt la présence d'un rythme dans la matière, dans l'épaisseur de la langue elle-même.
Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. Armée contre la justice. Je me suis enfui. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié.
Yves Dimano, les poètes ont souvent une grande réticence à ce que les musiciens s'emparent de leur œuvre. Les musiciens contemporains, pas fous, ont pu travailler avec des poètes plus anciens, importants et modernes. Un exemple parfait, c'est Rimbaud. De façon assez étrange, Rimbaud a donné lieu à plusieurs œuvres intéressantes qui ne ressemblent pas du tout. Les Illuminations de Benjamin Britten ou Une saison en enfer de Gilbert Amy. qui semblerait prouver que Rimbaud est parfaitement transformable, disons, comme matière pour des musiciens. Est-ce que ça vous étonne ou ça vous choque ?
Je dois d'abord avouer une relative et même assez grande incompétence en matière musicale, ce qui fait que je mesure mal les données réelles du problème. Effectivement, dans votre question, il y a quelque chose de juste. Je crois qu'on a tous, nous qui travaillons dans la poésie, on a tous une méfiance instinctive de la musique, dans le sens de l'adaptation. Enfin,
est-ce que c'est une concurrente ?
Non, je crois qu'on craint, un peu comme l'adaptation d'un roman au cinéma, on craint la déformation, on craint le malentendu, le contresens, on craint que l'œuvre de départ, puisque dans ces cas-là, je ne parle pas d'un travail de collaboration réelle, un travail de concert, je pense que c'est assez rare, mais dans le cas où on prend une œuvre qui existe pour en faire un morceau musical, sous quelque forme que ce soit, je crois qu'on a peur que l'œuvre de départ soit un prétexte. Les aisants expatés vont au monde. Sans besoin des peuples et des maîtres-neuves, la brillante faculté et l'expérience de votre science, elles âmes mûres, elles âmes mûres. À la façon de la nuit, j'ai moi tricoloré, tassé des pieds et des toits. Des faciles formules, l'homme et les mises en son lieu. Des enrouements, voilà, des marches virales, des enrouements. Il y a un rythme rimbaldien qui est clair dans des formes d'ailleurs différentes, aussi bien des formes fixes que des formes en prose. Enfin bon, ce rythme est le même. Enfin, pas dans les tout premiers textes, mais disons à partir du moment où l'écriture de Rimbaud s'affirme dans sa vraie personnalité, dans sa vraie originalité, on s'aperçoit que le rythme est le même. Quand on lit certains des derniers poèmes en alexandrin et qu'on les lit à voix haute, on s'aperçoit qu'ils sont plus en alexandrin, bien qu'ils le soient objectivement, et que c'est le même rythme qu'on retrouve après dans les illuminations. Quant au passage, si on peut dire, de ce texte en lui-même déjà assez chargé de rythme, de sonorité, en tout cas dans la langue, enfin dans un assez grand flamboiement, me semble-t-il, côté un peu syncopé aussi, enfin de son écriture, un peu haletant comme ça. Je pense, mais je dis je pense parce qu'en fait je l'ignore, je ne suis pas musicien, je pense qu'effectivement ça peut être une matière sur quoi un musicien peut travailler.
Michel Grangot, en quoi la pratique de la poésie, la pratique de la musique et les rencontres entre ces deux pratiques peuvent prendre des chemins vraiment contradictoires, ou au contraire, pour vous, il s'agit de rencontres naturelles et d'art qui se complètent?
Il y a une chose évidente, hein, et élémentaire à la base, c'est que la littérature et la musique sont deux arts de Louis fondamentalement. Ça veut dire une chose très précise, parce que Louis, c'est celui de tous nos sens, de nos cinq sens, qui est séparé de tous les autres. Les quatre autres sont plus ou moins reliés entre eux. Je veux dire que ce qu'on voit, on peut le toucher en général, hein. Ça a une odeur, un goût. Un mot, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. La musique, c'est pareil, un son, pareil. Et cette histoire d'être séparé du reste, ça a un impact important du point de vue de ce que ça produit artistiquement, de ce que ça produit pour la pensée, surtout, il me semble. C'est-à-dire que ce sont deux arts entièrement abstraits au départ. Ça n'est pas corporel. Ou si c'est, ça rejoint le corporel, mais différemment, très différemment, des arts plastiques ou de l'architecture, ou enfin de ce qui est concret finalement, de ce qui s'inscrit dans la matière.
Qu'est-ce qui serait le plus petit dénominateur commun entre poésie, pratique et musique?
Pour moi, paradoxalement, ça serait la lettre. La lettre, c'est un signe qui nous fait le langage. C'est un signe qui porte le sens. Mais paradoxalement, et de façon d'ailleurs complètement incompréhensible, enfin de façon en tout cas très mystérieuse et jamais expliquée par personne, la lettre est le seul de tous les signes qui n'ait pas de sens en soi. Autrement dit, c'est dans le langage ce qu'il y a de complètement abstrait. C'est porteur de sens, mais hors sens. Et la musique, c'est ça aussi. Différemment de la lettre, évidemment. C'est complètement différent comme objet, comme sensation. Mais c'est ça quand même, c'est porteur de sens hors sens.
Est-ce que ça voudrait dire que les musiciens devraient mettre en musique des jeux avec les lettres?
Pas forcément. Je pense que c'est sans doute particulièrement intéressant quand ils le font. Enfin, moi, ça m'intéresse. Bon, c'est le cas de Berriot.
Et ça marche comment chez Berriot? Et c'est avec qui?
Avec Eduardo Sanguinetti, un poème qu'il a écrit sur les voyelles. Alors la voyelle, ça c'est quelque chose d'absolument stupéfiant dans les lettres, en plus parce que toutes les lettres sont articulées, mais plus ou moins les voyelles sont plus articulées que les consonnes. Et l'articulation, pour moi, c'est un mystère. Alors je ne sais pas si au point de vue musical, c'est quelque chose qui est élucidé. La différence entre un son articulé et un son musical. Qu'est-ce qui fait la différence dans l'oreille? Ça me paraît clair que dans la nature, le son articulé, ça n'existe pas. La voyelle, ça n'existe pas.
Ah. 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 Ah.
Anfang?
In principio, nel mio principio.
Am Anfang, in my beginning.
Ach, in principio, erat!
In!
In!
Beginning! Vous pensez que la relation Berlioz-Sanguinetti est une bonne collaboration, parce que finalement, les poètes d'un côté, les musiciens de l'autre, arrivent à faire des choses ensemble, mais pas vraiment ensemble. C'est plutôt le résultat de commandes, en général.
Oui, alors, c'est le résultat de commandes, et un résultat où, en fait, la parole est complètement dévorée par la musique. Et en grande partie anéantie par la musique, pour la plupart, le sens est anéanti. Oui, c'est une bonne collaboration Sanguinetti-Berlioz, parce qu'ils ont contourné ce problème du sens, de la disparition du sens dans la musique, justement, en allant au cœur du problème, directement, c'est-à-dire vers la lettre qui n'a pas de sens par elle-même.
Est-ce qu'il y a une concurrence entre ces deux domaines en général qui permettrait de dire les paroles sont nulles, la musique est bien ou le contraire, ou bien d'écrivains qui sont déçus par ce que les musiciens font de leur texte? Est-ce qu'au fond il n'y a pas un sentiment de concurrence et même une sorte de guerre entre les deux domaines?
Oui, c'est pas un sentiment, je crois que c'est une concurrence qui existe à la base, au départ, qui ne peut pas ne pas exister. Et justement, je pense que ce qui est réussi dans la collaboration entre musiciens et poètes, c'est quand les deux arrivent à dépasser ce problème de la concurrence et à faire quelque chose où les deux forment une unité. Ça, c'est très rare et très difficile.
Autre vraie collaboration, Pascal Dussapin, compositeur, Olivier Cadio, poète, écrivain, Il Lico.
Et rien d'autre chose, il ne fait que parler, il parle seulement, il ne fait pas autre chose, il parle sans cesse, il ne fait que parler, il parle seulement, il ne fait pas autre chose, il parle sans cesse. Que voulez-vous? Silence, c'est ce livre que j'ai lu, c'est ce livre que j'ai lu, silence, encore un instant et j'ai fini, un instant. Bien bon, allons, voyons, par exemple, c'est trop fort, que voulez-vous? Tu ris tandis que je pleure, coupable. Je partais, signifie, j'étais sur le point de partir, disposé à partir, j'allais partir, mais y du tien, il met du sien, vas-y, il n'est que de s'entendre, c'est-à-dire, il suffit de s'entendre, le mieux est de s'entendre. Hip, hip, hurra, oh, oh, la, bis, ah, nous écrions. Ah. Oh, il parle si bas qu'on ne l'entend pas, qu'on ne l'entend pas. Bien, bon, allons, encore un instant, et j'ai fini, calamité, catastrophe. Amère douleur, amère douleur, calamité, catastrophe. Il fut sur le point de perdre la vie. Hélas, hélas, cet accident ne doit pas être rare. Sa vie va donner si fausse, non sai quel che ti dici, non sai più.
Le sens, c'est pas du tout un absolu. C'est comme la lumière. Il y a des degrés de sens. Il y a des sens crépusculaires, incertains. Et on peut très bien imaginer de jouer là-dessus en musique.
Il y a parfois des musiques instrumentales qui se disent inspirées par des poèmes. Exemple, La nuit transfigurée de Schoenberg. Ou bien on peut reprendre La jeune fille et la mort de Schubert dans la version quatuor où le texte a disparu. Est-ce que ça a un sens de savoir ça et de connaître le texte pour écouter la musique, ou est-ce que la musique finalement peut très bien s'en passer?
J'aurais tendance à dire que la musique peut s'en passer, pas pour le musicien certainement, mais pour l'auditeur. Je veux dire qu'on peut très bien aimer une œuvre musicale, la sentir, la comprendre, sans nécessairement connaître le titre et sans connaître les références. De même, enfin, c'est pareil pour les poèmes. On rencontre un poème, on le lit, on sait rien, mettons, sur l'auteur, et tout d'un coup, on sent qu'on aime et qu'on entre dedans. Les musiciens qui font de la musique étant inspirés par un poème, je pense que c'est leur problème. Je suis pas sûre que ce soit un problème par rapport au sens, ou alors c'est très général de toute façon. C'est quelle est la position des musiciens par rapport au sens, à cette question du sens. Quand je disais qu'il y a des sens crépusculaires, Et quand je disais que les lettres, spécialement les voyelles, c'est le sens sans être le sens, c'est ma conception de la musique. Peut-être que ça n'est pas la conception de tous les musiciens. Peut-être que pour un certain nombre de musiciens, cette question du sens est, en tout cas pour eux, complètement évacuée.
Que la voix des poètes lisant leurs poèmes est importante. Est-ce que ça a un rôle quasiment musical, ou du moins sonore?
Alors, ce que je peux dire, c'est que moi j'écris avec mon oreille, constamment, ce qui fait d'ailleurs que j'écris très lentement, parce que tout ce que j'écris, je l'entends, et il y a des choses que je ne peux pas écrire parce que ça m'est désagréable à entendre. Par exemple, je ne supporte pas du tout les hiatus. Je ne supporte pas qu'une voyelle soit répétée. Par exemple, je ne supporterais pas d'écrire « la situation a évolué et ceci et cela ». Évoluer et, c'est quelque chose qui m'est insupportable. Ceci dit, je n'ai pas un plaisir très considérable à écouter les poètes lire leur poésie en général.
Donc ça veut dire que c'est la voix intérieure qui est... essentiel pour vous.
Oui, oui, absolument.
Et c'est pour ça que le rapport à la musique finalement n'est pas si simple, parce qu'il s'agit d'une matérialisation très concrète d'un sonore que finalement vous préférez peut-être garder à l'intérieur de vous.
Non, si le sonore vient des autres. De toute façon, la musique, c'est, je l'entends comme l'intérieur de l'autre. Et ça, c'est intéressant, c'est même passionnant. Quand on aime, c'est tout à fait suprême.
Hey man, what's your style? How you get your kicks for a living? Hey man, what's your style? How you get your adrenaline flowing out? How you get your adrenaline flowing? What's your style? I love the way you drive your car now. Hey man, what's your style? I ain't jealous of the way you're living. I ain't jealous of the way you're living.
Thanks, Santa Claus.
When you cut that dude with that stiletto, man, you did it so cheap.
Boy, that thing about the last time. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont le demain. Les mains dans les mains, restons face à face. Tandis que tout le fond de nos bras passe. Des éternels regards longs de silence viennent la nuit, sonne l'heure. Les jours sont bons de demeure.
Marie-Étienne, vous êtes écrivain, entre autres poète, et vous avez été longtemps responsable des lectures de poésie au théâtre de Chaillot, sous Antoine Vitesse, si on peut dire. Vous avez donc invité beaucoup de poètes. La première question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il y avait un aspect sonore et musical dans ces lectures de poésie ?
Alors effectivement, il y avait un aspect sonore du fait que les poètes... nous avons toujours invité des poètes vivants, donc ils étaient présents avec leur voix, avec leur corps, et cela changeait pas mal les choses pour eux, et ça leur était parfois très difficile d'ailleurs de lire, parce que ça n'avait rien à voir avec l'écrit. Et je pourrais ajouter une chose, c'est que ces lectures dont je me suis occupée pendant 8 ans m'ont aussi intéressée par rapport à moi-même, à mon propre travail, mais aussi parce que je trouvais que la présence physique et vocale des auteurs apportait quelque chose de plus que le texte écrit et simplement lu dans un livre. Et je pense que nous étions tous plus ou moins hantés, en tout cas moi, par l'œuvre des troubadours, pour qui la poésie ne trouvait son plein accomplissement que lorsqu'elle était dite et chantée. Et notamment pour Guillaume d'Aquitaine, qui a mis le genre à l'honneur, et il y avait pour lui, dans l'acte de création littéraire, il y avait d'abord l'écriture à la fois des mots et de la musique, qui était un temps de l'intériorité, et il y avait un temps de l'extériorité au cours duquel l'œuvre était chantée en public dans la société de l'époque. Et donc il me semble que, beaucoup plus modestement, mais tout de même, à l'époque où nous faisions ces lectures, il y avait quelque chose de cet ordre-là.
Plus astres nomes donas que de midons ves nechaya minus mus plazes nol plaz ni ai pude kemnes raya hobs mes que usia fundauts en via damo veraia e pues na pen reasals en Catalunya la gaia entre els catalans valents e las donnas avinens.
Parmi les poètes que vous avez invités, il y a un musicien qui est John Cage, qui est très connu comme musicien, sans doute un peu moins comme poète, mais je crois qu'on peut parler de poésie dans son travail. Est-ce que ça serait un des meilleurs descendants possibles de cet esprit des troubadours ?
Je ne le verrais pas comme ça, parce que sa musique est une chose et sa poésie en est une autre. Néanmoins, lorsque nous avons fait cette lecture à Chaillot, est-ce que la dimension du personnage était dans notre tête à tous, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose de plus que sa simple lecture qui s'est produite lorsqu'il a lu. Il a lu des textes d'un livre qui venait de paraître à ce moment-là, qui était le livre des champignons. Il lisait en anglais, et enfin en américain, et il était traduit immédiatement par Pierre Lartigue, qui avait traduit le livre d'ailleurs publié. Et cette lecture avait ceci de caractéristique, c'est qu'elle a été très, très, très longue. Alors, je ne sais pas si on peut lier ça à son comportement musical en tant que compositeur, mais il y avait probablement un rapport.
Ce soir, je vais lire en anglais et Pierre Lartigue va traduire en français. Et nous commençons avec deux chapitres du livre de champignons, le premier et le neuvième. En tout, il y a 10. Voices singing Joyce's 10 thunderclaps, transformed electronically to fill actual thunder envelopes. Strings playing star maps, transformed likewise to fill actual raindrop envelopes. Rain falling on materials representing history of technology. McLuhan. Last rain not falling, wind instruments, that is, present moment. Music becomes nature. John's. Man, earth, a problem to be solved.
Voix chantant les 10 coups de tonnerre de Joyce, transformés électroniquement pour remplir de vraies enveloppes de tonnerre. Cordes jouant des cartes d'étoiles transformées pour remplir de vraies enveloppes de gouttes de pluie. Pluie tombant sur du matériel représentant l'histoire de la technologie. McLuhan. La dernière pluie ne tombe pas. Instrument avant, c'est-à-dire moment présent. La musique devient nature. Jones. Homme, terre, un problème à résoudre.
Mais est-ce que la lecture d'un poète un peu musicien devient musicale? Ou est-ce que ces conflits qu'il y a entre l'écoute des mots et l'écoute des sons font que chacun va écouter à sa manière? Soit on va entendre une voix chantante, une voix agréable, soit concentré par l'écoute des mots, on ne pense pas du tout à cet aspect.
Je crois que ça n'est pas seulement un poète qui, par ailleurs, est un musicien, qui fait penser à sinon la musique, du moins à un apport vocal. C'est toute lecture à haute voix qui fait penser à cela. Et le texte a à franchir, pour la plupart des poètes, a à franchir un obstacle qui est l'obstacle du, je crois, du passage de l'intériorité à l'extériorité dont je parlais tout à l'heure. Et je pense notamment à un poète comme Jude Stéphan qui a commencé sa lecture dans un état de grande angoisse et qui a commencé par dire qu'à la limite, c'était presque impossible de se lire. Enfin, il a commencé comme ça et ensuite il a très très bien lu. Mais ce qui est magnifique dans une lecture à haute voix, c'est que l'auteur fait entendre quelque chose, soit involontairement, parce qu'il renifle, parce qu'il fait des raclements de gorge, enfin, il fait entendre sa présence physique, mais également, il met quelque chose de son intention qui n'apparaît pas forcément, qui n'est pas forcément très visible lorsqu'on se contente de lire les textes. Et pour dire encore un mot de Jude Stéphan, au cours de sa lecture, je me suis aperçue d'une chose que je n'avais jamais, j'ai envie de dire, entendue en le lisant, c'est son humour. Il y avait un humour extraordinaire qui apparaissait à la lecture à haute voix.
Il y a des lieux si privilégiés de chez les poètes. Par exemple, chez Bonnefoy, on distinguerait un vrai lieu qui serait un lieu d'origine. Mais moi, je n'aurais pas connu de lieu. Alors, je vais lire une série de poèmes sur ce faux lieu ou ce non-lieu. Comme disait Villon, en ce Bordeaux où nous tenons notre état. C'est un très beau mot, Bordeaux, mais le mot qu'il a remplacé dans la langue contemporaine est beaucoup plus vilain, mais vous le reconnaîtrez certainement. Mais il reste toujours le pluriel de la belle ville de Bordeaux. C'est une série qui s'inscrit dans Idylle et Cippe. Alors le premier de ces poèmes, à ce moment-là, je mettais encore des titres, s'appelle « Vêpres ». Deux nues, deux filles sont surpris que j'ouvre la porte sur le tapis, revenant à elles comme à la drogue, comme un peintre d'angoisse qui se pendit. Perdues, sœurs, femmes, puis mères, je leur apporte des fleurs. Je leur dis, avant que nos six jambes et bras s'entrepalpent, « Dimanche m'est apparue la Vierge, c'était au fond du jardin. Elle rit, je me dévais, leurs éclats en la chambre font fête. » En bas, un cognac me séparera.
Je pense que la lecture à haute voix, pour moi en tout cas, c'est une nostalgie. Ça correspond à la nostalgie d'une individualité qui a été fragmentée et qui cherche à retrouver une unité. Ça me paraît indubitable, et c'est pour ça que ces lectures de poésie me paraissaient si précieuses. Parce qu'il y avait là le début d'un retour à une unité et à cette parole perdue dont on parlait à l'époque des troubadours, parce qu'à ce moment-là, la poésie était très liée à la théologie, en tout cas les théologiens s'y intéressaient beaucoup, et on pensait que par la poésie et la musique, on finissait par rapprocher de cette parole divine qui avait été perdue au moment de la perte du paradis.
À Chaillot, il y avait aussi Georges Apergis, auteur du texte et de la musique de ce fragment de Sextuor, « Je prends la mort ».
Je prends la mort, je prends la mort, vaille que vaille, bien gré en... Bien gré en patience, je prends la mort, vaille que vaille, bien gré en patience. Je suis la mort de nature, ennemie qui tout finalement consomme, annihilant tout humain, la vie réduit en terre et en cendre tout homme. Sur ce bœuf, si qui s'en va pas à pas, assise suis, et ne le hâte point, mais sans courir, je mets à grief, trépas les plus bruyants, quand mon dur dard les pointe. J'ai les yeux tout battus, la face toute pâle, le chef grison et chauve, et je n'ai que 30 ans. 16 heures, pour le moins. Je meurs, les yeux ouverts, me tournant, me verrant, de droit et de travers, sur l'un, sur l'autre flanc, je tempête, je crie. Je suis une jeune femme de 22 ans, maintenue en vie depuis maintenant plus de 13 mois par un respirateur, nourrie et préservée des infections par des perfusions. Je suis certaine que je ne reprendrai jamais conscience. L'hôpital persiste, malgré la pression de ma famille, à m'entretenir. La raison en est que je ne suis pas en état de mort cérébrale, c'est-à-dire que mon électroencéphalogramme n'est pas plat. Quid omnia, quid omnia, nihil si, nihil cur omnia, nihil ut omnia. Et au bout de 3 jours, la belle ressuscite, ouvrez, ouvrez, mon père, ouvrez sans plus tarder. 3 jours, j'ai fait la morte pour mon honneur garder.
Marie-Étienne, vous n'étiez pas encore à Chaillot quand on pouvait enregistrer la voix de Guillaume Apollinaire ou de Paul Claudel, puisqu'il s'agit de voix de poètes très anciens. Mais est-ce que justement, ayant cette expérience, vous auriez le désir d'entendre leur voix et d'écouter donc du sonore par rapport à des poésies que vous avez sans doute lues et d'abord publiées?
Ah oui, tout à fait. Je trouve tout à fait extraordinaire d'entendre un poète lire ses propres textes. Alors, bon, ça a été le cas dans le cadre des lectures de poésie à Chaillot, mais également de poètes comme ceux que vous avez cités. C'est tout à fait extraordinaire parce que, comme je le disais tout à l'heure, un poète qui lit ses propres textes ajoute quelque chose qui n'est pas dans le livre dans lequel on ne voit que les mots écrits. Son phrasé, sa manière de s'interrompre, son débit, tout cela est très important pour comprendre intimement sa poésie. Et alors là, je vais donner un exemple de quelqu'un qui n'est pas à proprement parler un poète, mais qui est Joyce. C'est sûr que d'entendre Joyce, même quand on connaît mal l'anglais comme moi, c'est absolument extraordinaire, et je suis sûre que ça permet de comprendre, enfin moi, ça me donne des outils de compréhension que je n'ai pas forcément toujours, quand je lis simplement le texte.
His endless notions, I or I one last saw waterhouses flock. They took it asunder, I heard them sigh. When will they reassemble? Oh, my back, my back, my back. I'd want to go to Aix-les-Thames. King times, There's the bill for sex alloys, the concept of this industry, time.
C'est pour ça que, lors de ces lectures à Chaillot, nous tenions beaucoup, je dis nous parce que Antoine Vitesse était en général d'accord avec ce que je souhaitais, nous tenions beaucoup à ce que ce soit les auteurs eux-mêmes qui lisent et non pas des comédiens. La lecture par un comédien était parfois réussie, mais je dois le dire assez rarement. Parce qu'ils ajoutaient quelque chose qui n'avait rien à voir avec le texte, ils ajoutaient leur présence à eux, ce qui était autre chose, ce qui devenait du théâtre. Tandis que l'auteur, même s'il ne lisait pas bien, et je dis « il ne lisait pas bien » entre guillemets, la manière dont il lisait était très importante. Et ça pouvait même, je ne sais pas, il m'est arrivé d'être complètement bouleversé par la présence de quelqu'un qui lisait ses textes, même quelqu'un de pas très connu, même quelqu'un de maladroit. C'était très important.
Est-ce qu'on peut dire, pour conclure, que le poète nous permet d'entendre sa propre musique ?
Absolument. Absolument, parce qu'il donne quelque chose de ses intentions cachées par sa voix.
La voix de John Cage, interprétant à sa manière Finnegan's Wake de James Joyce pour une récréation radiophonique Roratorio. Poésie, musique, chemin contradictoire par Christian Rosset, avec aujourd'hui Yves Dimano, Michel Grangot et Marie-Étienne, écrivain, poète. Réalisation, Muriel Senner, Elmander Babaï.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 3 octobre 1996. À suivre.